What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils. Papa, j'ai pas de fils.
Oui, cinéphiles affranchis, irlandais, conducteurs de taxi ou même courtiers, cinéphiles américains ou amérindiens, et cinéphiles ardéchois, bonjour et bienvenue, vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en studio avec Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, c'est un plaisir également.
Et Olivier.
Moi, je suis pas content Bonjour. D'être là, mais on m'a obligé.
Ouais, je sais. On va en subir les conséquences et les foudres après, mais tout de suite, Sylvain aussi est derrière la vitre.
Bien le bonjour.
Aujourd'hui, film unique pour un réalisateur unique, émission fleuve presque pour un film fleuve, une demi-heure d'émission pour un film de 3h28. Alors je sais, tout n'est pas une question de quantité, mais ça, malgré les critiques élogieuses, les précédents films du bonhomme et sa réputation, c'est à vous de me le dire. Vous l'aurez peut-être compris, on va parler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, entre autres. Didier, ce film fleuve.
Par où commencer ?
C'est
justement,
ça, par
c'est
où
un
commencer.
Film fleuve, c'est un film. Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire, et c'est intéressant parce que c'est l'histoire oubliée, justement, que les Américains du Nord sont bien empressés d'oublier, comme ils ont oublié beaucoup de choses, hein, dans leur génocide amérindien, qui concerne la tribu des Indiens Osages, qu'on a viré de leur terre, comme à peu près toutes les tribus amérindiennes à l'époque, pour finir par les déposés sur une terre stérile, aride, en Oklahoma, alors je ne sais pas si c'est dit dans le film, mais en plus qu'ils ont été obligés d'acheter. Quoi. On ne leur a pas dit seulement on vous enlève de vos prairies avec les bisons pour vous mettre dans ce coin pourri, mais il va falloir l'acheter. Quoi. Alors, vengeance de l'histoire et des choses qui feraient presque croire en Dieu, ce territoire hostile et complètement désert et un culte se révèle plein de pétrole. Et les Indiens Osages deviennent du jour au lendemain extrêmement riches. Alors évidemment, ça va attirer les convoitises des petits blancs autour. Alors on commence par des choses pas vraiment honnêtes, mais qui sont dans la légalité, c'est-à-dire qu'on leur octroie des sortes de tuteurs. Donc ils leur disent, oh là, vous avez acheté un peu trop de viande hein, la semaine dernière, il faut faire attention, et qui eux se servent grandement au passage. Bon, ça c'est une chose, mais dans le film, et c'est tiré d'une histoire vraie, donc qui a été racontée dans un ouvrage dont Olivier vous parlera tout à l'heure, une espèce de sport qui se met en place, comme ça, rusé, c'est-à-dire on épouse des jeunes femmes indiennes osages, et puis on s'arrange quand même sur 2-3 ans pour que toute la famille trépasse, et donc on devient à son tour propriétaire des terrains par héritage direct. Et donc le film nous raconte tout ça, alors sur 3h30 effectivement, mais je vous rassure tout de suite, on ne les voit pas passer les 3h30.
Ouais, 3h30, toi non plus Olivier,
oui,
3h30.
Oui, on est d'accord, c'est bon, on aura certainement l'occasion d'en parler, mais enfin il y a chez Martin Scorsese un sens de la narration absolument unique. Didier Orantaine disait un sens du rythme au montage, évidemment, qui, entre autres choses, naturellement, entre autres choses qui font qu'effectivement, on ne voit pas passer les 3h30. Tout à fait honnêtement, moi j'arrivais au cinéma, et comme d'habitude, il passait les pubs et les bandes-annonces, et il y avait un petit agacement qui montait, l'air de dire, il pourrait nous épargner ça avant un film qui va durer 3h30. Quoi. J'étais un petit peu dans cet état d'esprit, donc vous voyez, pas bon. Hein. Et en fait, ça commence, et on oublie que, on oublie totalement le temps.
Mmh. Non, mais ça, c'est important parce qu'il y a des cinéphiles, même comme moi, pour qui cette durée de 3h30, même si on se dit, bon, Scorsese, ça peut être un peu rédhibitoire. Mais donc, vous nous dites...
Non, pas du tout. Enfin bon, on a parlé ici des exemples assez récents de films, bon, peut-être pas 3h30, mais au moins 3h15, qui sont également du même tabac, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas passer le temps, et on, je vais pas dire qu'on a envie que ça continue, mais presque, quoi. Pourquoi pas. Et donc, alors ce film raconte cette histoire à travers des personnages issus du monde réel, hein, donc tu en parles tout à l'heure, Olivier est particulièrement un petit blanc qui revient de la Première Guerre mondiale en Europe, mais qui n'est même pas un héros puisqu'il était aux cuisines, il s'est peut-être coupé un peu avec son couteau, hein, bon, voilà, et qui est un peu bas du front, qui n'a aucune volonté et qui va tomber sous la coupe de son oncle, donc qui est joué lui par Robert De Niro, et qui lui est une véritable crapule et qui organise justement cette espèce de meurtre de façon quasi industrielle, quoi. C'est complètement fou.
Je dirais artisanal.
Ah, oh, c'est un peu plus que artisanal quand même, parce que alors artisanal peut-être, mais avec une quantité, quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà, un artisan productif à l'américaine.
À l'américaine.
Alors justement, le fordisme, voilà. Alors justement, moi je trouve très intéressant dans ce film, au-delà de l'histoire qu'on nous raconte, qui au-delà aussi de l'histoire presque policière, est une tragédie, presque un drame antique, puisque c'est aussi une histoire de couple et d'un couple où il existe de l'amour, mais où on va essayer de mettre à mort quand même l'héritière entre le pactole et soi-même. Enfin, en l'occurrence, pas vraiment soi-même, mais l'oncle. Quoi. Voilà. Alors, il y a ça dans le film, bien évidemment, mais pour parler de l'Amérique, dans la dernière partie du film, on a c'est pas encore le FBI, c'est le BI, le bureau d'investigation, donc tout récemment créé par Hoover.
Mais bel et bien fédéral.
Mais qui ne s'appelle pas encore FBI.
Mais pour dire que les gens dans les comtés, dans les États, quand ils voient débarquer les fédéraux, c'est terrible.
C'est l'ennemi. On est tellement bien entre soi avec ses petites affaires, et là débarquent des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent de Washington et sur lesquels on n'a aucune prise. Et donc on va mener cette enquête, et donc on assiste presque en direct à la naissance du FBI, quoi. Et en même temps, on assiste, et moi j'ai eu cette impression-là, on assiste vraiment à la naissance de la mafia américaine, puisque le personnage qui tire les ficelles dans l'ombre de presque tout le monde, qui trahit ses subordonnés, ses alliés, enfin qui n'a vraiment aucune vergogne, sous couvert d'être un grand ami de la tribu Osage, il a même appris leur langue, etc. C'est un parrain. C'est le premier parrain, peut-être, aux États-Unis, juste après la Première Guerre mondiale.
En entendant là, Didier, j'avais pas pensé à ça, mais j'ai tendance effectivement à être assez d'accord, parce que on a l'histoire américaine, elle commence, bon, bien avant, 17e, 18e siècle déjà, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mafias importées. La mafia irlandaise,
italienne,
naturellement, sicilienne, calabre, enfin, etc. Et là, effectivement, on a peut-être quelque chose comme la naissance d'une mafia locale.
Oui, c'est ça.
Qui marche bien aussi.
C'est ça, voilà. Et qui est exactement sur les mêmes bases.
Sur les mêmes bases.
Un parrain, des gens plus ou moins manipulés, sans vergogne, qui veulent pas être au courant, ou alors qui s'en moquent totalement. On voit aussi à travers ça le total mépris de la vie humaine des Indiens, enfin qui pour les Blancs sont à peine considérés comme des êtres humains, quoi. C'est-à-dire la vie d'un Indien, alors la vie d'une Indienne encore moins, quoi.
Et une chose qui me frappe d'ailleurs pendant que tu parles également, et ça me met un peu des frissons à moi, c'est que ces mafias irlandaises, italiennes et ici la mafia américaine sont catholiques.
Bien sûr.
C'est assez impressionnant, mais il y a une espèce d'honnêteté chez Scorsese. C'est-à-dire le curé, il est sympa, lui. Le curé, il est honnête.
Oui.
Il est trompé comme les autres. Et Et il est trompé également au plan religieux. C'est-à-dire l'oncle se donne des airs de profonde religiosité. C'est véritablement écœurant quoi, de voir ça.
C'est un caméléon.
Voilà, c'est ça. Et,
on ne prononce pas ce nom à fréquence 7. Pas de manière péjorative.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un beau caméléon. C'est Scorsese, c'est aussi un peu caméléon, donc, au bon sens du terme, mais c'est une autre question. Mais effectivement, il y a plus qu'un aperçu sur la religion des Indiens, sur leur musique, sur leur tradition, et où on voit d'ailleurs un étrange mariage de la spiritualité indienne avec la spiritualité catholique. C'est-à-dire, en gros, on peut s'arranger, sauf, bien sûr, quand on instrumentalise, en l'occurrence ici, la religion catholique, et on a ce mafieux écœurant qui dit les psaumes, c'est affreux.
Oui, mais c'est le parrain, hein, le parrain de Coppola, on est dedans.
Et c'est Robert De Niro.
C'est Robert De Niro, excellent. Donc, vieux compagnon de route de Scorsese, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le neveu, pas tout à fait terminé dans sa tête, mais responsable quand même, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, et même s'il le fait parfois à contre-cœur, il le fait avec beaucoup de conscience, c'est Leonardo DiCaprio, autre compagnon de route un peu plus récent de Scorsese. Quoi. Alors tu as signalé ça et je trouve que c'est tout à fait juste l'aspect documentaire aussi sur la culture sage.
C'est beau. Hein.
Et quand on lit les différentes interviews qui accompagnent la sortie du film, on s'aperçoit que Scorsese, mais aussi DiCaprio, ont passé énormément de temps avec les Amérindiens. Et d'ailleurs, dans le film, il y a énormément d'Amérindiens qui jouent leur rôle. Alors évidemment pas leur rôle dans les années 20, mais leur rôle aujourd'hui. Quoi. C'est, oui. Voilà.
Alors, et l'actrice qui joue donc Lily.
Alors Lily Gladstone, ouais. Elle est absolument fabuleuse.
Elle était dans Jimmy P.
Voilà.
Apparemment. Donc,
elle est absolument fabuleuse. Alors côté casting, De Niro, je le trouve vraiment fabuleux, au top, hein, dans ce rôle de salopard. Alors on peut le dire, parce que ça apparaît très vite dans le film quand même. Oui, oui. Dès le début, on a des doutes quand même. Quoi. Et très très vite, on s'aperçoit de ce que peut être ce personnage. Je trouve que DiCaprio est un peu moins, peut-être un petit peu moins bon, mais c'est le rôle peut-être qui veut ça. Et en tout cas, celle qui illumine et qui porte le film, c'est effectivement Lily Gladstone qui joue l'épouse trompée, trahie, qui est solaire, qui est absolument incroyable.
Comme à un cinémascope, on a le droit de ne pas être d'accord.
Mais oui,
j'imagine une petite tentation d'inversion, de dire que à par moment, attention, hein, énormément de prudence ici dans mes propos, évidemment. J'ai eu parfois l'impression que De Niro faisait du De Niro, c'est-à-dire il faisait son parrain, il faisait son, etc., un petit peu beaucoup, alors que DiCaprio offrait une palette peut-être plus large, étant donné que c'est un doux crétin doublé d'un salopard, doublé d'un amoureux, triplé d'un amoureux, ça lui offre quand même une palette un peu plus... Je trouve qu'il occupe le terrain avec une grande... Alors moi, j'attendais évidemment le duo DiCaprio-De Niro. Hein, et puis, ce duo, il y a des moments où DiCaprio a pratiquement la tête de Niro, comme si déteignait, comme ça. Et ça donne des duos quand même de très haute volée.
Ouais,
quand même.
C'est plus dans le film, je trouve, le duo Caprio-Gladstone. Oui. Oui. C'est quand même les très grands moments du film, de tête à tête, ils sont là.
Complètement. Entièrement d'accord.
Et dans l'histoire de Scorsese, tu voulais revenir.
Alors oui, ce que je trouve très très intéressant dans ce film aussi, donc comme je disais, qui pour moi est aussi un peu un film sur la naissance d'une mafia américaine, donc thème s'il en est cher à Scorsese, hein, il a fait je ne sais pas combien de films sur cette thématique-là. Et là... Alors, qui sont des films brillants, mais alors très toniques, électriques. Hein, je sais pas, Casino, par exemple, dès les premières séquences, ça flash de partout, à des montages ultra rapides, des choses comme ça. Et là, on est dans quelque chose, mais alors de totalement différent. On est dans quelque chose de posé, avec un rythme, je dirais, très classique, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez ce réalisateur, mais qui fonctionne absolument parfaitement. Et ça, j'ai trouvé ça surprenant. alors pas du tout désagréable, hein, ça accompagne bien le film, mais très très surprenant chez ce réalisateur qui nous a plutôt habitués à des films qui bougent énormément. Là, on a beaucoup de dialogues, on a des plans séquences, des plans fixes relativement longs, et pour moi, c'est aussi ce qui donne tout l'intérêt du film.
C'est à tel... Pardon.
Non, peut-être qu'à l'âge de 80 ans, il atteint la maturité.
Alors, je cueille cette remarque au passage, et puis je l'associe à une autre remarque, à savoir le Scorsese, pratiquement historien de la musique, qui a produit
et du cinéma,
naturellement, bien sûr, qui a produit ou réalisé de nombreux documentaires, hein, sur, en particulier sur la musique populaire américaine. Où il jouait déjà sur la longueur, hein, il y a des documentaires qui durent plusieurs heures également, et où se manifeste, à mon avis, ce qui se manifeste, Didier l'a, à mon avis, très bien dit ici, à savoir une capacité à raconter des histoires, c'est tonton Martin Scorsese qui te prend sur ses genoux et qui te raconte l'Amérique, quoi, hein, et qui te raconte le cinéma américain, la musique américaine, la mafia américaine, le FBI, mais il te raconte tout, les osages, etc. Et toi, ça pourrait, d'ailleurs ça dure des heures et ça pose pas de problème, et je suis entièrement d'accord avec Didier pour souligner ce côté classique dans la facture qui est surprenant effectivement, et qui, bien, ça pourrait dire oulala, dans quoi je m'embarque, un film classique qui va durer deux fois plus qu'un film classique, ça va être compliqué, et en fait non. Voilà, c'est ça le miracle de Scorsese, je crois.
On va peut-être, pour son... S'il le fallait, pour s'en convaincre, écouter un petit morceau, et écouter la bande-annonce où on entendra effectivement un peu de musique, la musique osage, ou en tout cas la musique amérindienne. On va entendre aussi les voix. Attention, c'est la version originale.
You know, you got nice color skin. What color would you say that is?
My color.
The Osage, they have the worst land possible. But they outsmarted everybody.
The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
This wealth should come to us. Their time is over.
It's just going to be another tragedy.
When this money started coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. We're still warriors.
On parle de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Didier et Olivier, qui en parlent, hein, qui ne sont pas acteurs du film.
Non, j'ai refusé le rôle, parce que jouer un salopard pareil, non.
Ouais. Olivier.
Oui. Alors, je me suis régalé pour des tas de raisons, sans doute. Et alors, en particulier, donc, pour ce film est aussi un hommage aux Indiens, hein, quand même, aux Osages en particulier, aux natifs américains en général, évidemment. Et pour l'occasion, à l'occasion de cet hommage, on a effectivement quelque chose de quasi documentaire sur les natifs américains, justement.
Oui, juste un petit mot dans un interview de Scorsese. J'ai lu que, après avoir vu le film, un Indien Osage, donc un natif, lui a dit: c'est formidable, vous avez enlevé le pansement, maintenant il va falloir attendre que ça cicatrise.
Oh, c'est beau.
Et je trouve que ça résume bien le film. Ouais.
C'est tout à fait juste. Il y a en particulier, alors là, en termes de pansements, de blessures, de cicatrisation à venir, on a la scène du calumet. Il fume le calumet pour la dernière fois, il se le passe. Et puis après, j'en dis pas plus, mais il y a toute une problématique de la blessure, et qu'il va falloir des siècles. Enfin, elle n'est pas fermée, elle est toujours, évidemment, toujours pas fermée. Donc effectivement, moi, Je sais que mon premier voyage aux États-Unis, New York, j'avais pris la direction du musée d'histoire naturelle pour voir les objets des natives américaines, enfin des natifs de la terre américaine, enfin du nouveau monde pour nous, mais pas pour eux, évidemment. Et effectivement, là, on a ces objets, les couvertures, etc., qui sont mis en scène, photographiés par le photographe de Scorsese, mais par Scorsese aussi, effectivement, et c'est superbe. Et Nicolas Grisol, qui nous fait une très belle émission sur les musiques du monde, je l'ai vu danser. il travaille dans le studio à côté, je le dénonce. Effectivement, en écoutant la bande-annonce, il a évidemment tout de suite repéré la musique des natifs américains. Et voilà, c'est un plaisir pour ça aussi. Alors... évidemment, Nicolas Grisol rentre dans les studios, mesdames et messieurs, en direct. Ça, c'était pas prévu. Mais là, il repart. Merci, Nicolas. C'est sympa. Excusez-moi, je suis mort de rire. Oui, cet hommage aux Américains. Alors. On parle beaucoup des Américains, on en a dit jusqu'à maintenant pas mal de mal. Et c'est vrai qu'ils ont aussi quand même une chose qui moi m'a toujours frappé chez les Américains, c'est leur professionnalisme quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'effectivement, un groupe de rock français ne sera jamais un groupe de rock américain, et quel que soit le niveau du business où on se situe. Bon, c'est pas tout à fait la même chose pour le cinéma, mais enfin, la grosse machine américaine, quand elle déboule et qu'elle nous fait des superbes... C'est vrai qu'il y a des films de genre maintenant français qui arrivent un peu...
On y arrive.
Mais voilà, on y arrive. Donc c'est assez intéressant, mais tout le monde comprendra bien ce que je veux dire. Voilà. Et les Américains... non, mais je veux dire... Le truc, c'est qu'ils font le job, quoi. Voilà.
Ils font le job. Ils font le job, mais justement, on reprend des termes américains pour dire ça. Donc forcément,
oui.
On a les...
Oui, bah, oui. Non, mais on est bien d'accord que c'est une manière. Voilà. C'est une manière, on aime, on n'aime pas. Souvent, on est obligé de dire chapeau. C'est quand même bien foutu. Je me rappelle avoir en concert vu rentrer Tito Puentes avec le son Tito Puentes forgé aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la première partie. Hein. On est bien d'accord que on a quelque chose qui rentre sur scène là, poum. Bon, et dans le cinéma ils font un peu la même chose. Et alors ce qui m'intéresse moi comme prof de philo, on va dire, c'est évidemment les auteurs américains, les romanciers, parce que c'est la même chose pour le roman, Philip Roth, Paul Auster, enfin, etc., c'est la machine, et ça marche, et des mecs, Philip Roth, par exemple, il sort des romans, enfin, il a sorti des romans les uns après les autres, des chefs-d'œuvre, mais à côté de ça, il va à la fac et il dit comment on fait, c'est quand même énorme, ce professionnalisme. Alors évidemment, c'est pas pour ça qu'on arrive à le faire, hein. Mais voilà. Et il y a une tradition américaine quand même énorme autour du grand reportage, du journalisme de terrain. C'est London, c'est Albert Londres. Enfin, bon, c'est différent. Mais enfin, ils ont une tradition à ce niveau-là. Et là aussi, ça peut être intéressant de comparer avec quelqu'un comme Florence Aubenas ou le Kate Wittstrom d'un côté, et puis les grands reporters américains quand ils sortent le magnétophone, ou quand ils sortent les Moleskine, quoi, les carnets, quoi. C'est quand même du taf. Et là, on a un bonhomme, David Graham. Donc, je conseille à tout le monde d'aller là où ma compagne Landy m'a envoyé, à savoir les podcasts de France Culture, l'invité des matins de Guillaume Herner du vendredi 15 septembre. C'est une interview, un entretien de 35 minutes avec David Graham, qui est l'auteur d'une enquête intitulée donc Killers of the Flower Moon. Et c'est le mec qui a sorti l'affaire, quoi. C'est-à-dire, comment il trouve ça, je sais pas bien, mais il se met au boulot, et la bibliographie, c'est 270 bouquins, c'est des années passées dans la documentation, dans les archives, pour trouver the truth, quoi, la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi, qui, quoi.
Les, pour répondre un peu à ta question, les ossages apparaissent dans un ou deux films muets des années 20, justement, comme oui. ça. Et quand on a revu ça maintenant, on n'a pas compris ces Indiens qui étaient, alors, ils étaient tournés en ridicule, mais très, très riches. Et donc, c'est, je crois oui. que c'est à partir de ça qu'on a pu commencer à s'intéresser à cette histoire.
En tout cas, lui s'y est intéressé. Je l'ai entendu donc parler pas plus tard que ce matin, puisque j'écoutais donc en différé. Et ce monsieur, donc, fait ce qu'on appelle des non-fictions. Je regarde l'heure parce qu'effectivement, ça passe. Ce monsieur écrit des non-fictions. Il a fait donc le naufrage du Voyager aussi, l'histoire au XVIIIe siècle d'un trois-mâts qui s'échoue au large du Cap Horn. Les gens finissent en cannibalisme après avoir éjecté les autochtones qui pouvaient les aider. Enfin, c'est magnifique. Et donc, il a fait. Et ça a été mis donc au cinéma par James Gray. Donc, et là, c'est pareil, c'est Scorsese qui vient choper un travail de Danny Graham pour en faire le film dont on parle ce matin, ce midi donc. Et David Graham a une profonde science, un vrai professionnalisme de ce que c'est que raconter une histoire tout en restant dans la vérité. Mmh. Et donc, on lui dit, mais quand même, votre histoire, elle fait un petit peu trop fiction pour que ça soit vrai. Il dit non, tout est vrai. Simplement, quand j'écris, j'utilise les techniques de la narration. C'est-à-dire que je prends un matériau qui est vrai, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un élément, un jugement qui soit faux. Tout est référable à une documentation. Mais pour vous raconter l'histoire, moi, je vais à la fac, comme je disais tout à l'heure, je suis les cours de tel... du cours d'écriture de tel ou tel mec, si vous voulez, ça, en gros, c'est ça. Et j'apprends à raconter une histoire, et, dit-il, je la fais visuelle. C'est-à-dire, quand j'écris, je veux que mon lecteur voit ce dont je suis en train de parler. Si bien que, il n'a pas téléphoné à Scorsese, hein, mais Scorsese a lu le bouquin, et il a vu qu'il pouvait donner son regard à son tour. Mmh. Voilà. Et je voulais rendre hommage à David Graham, qui est un type qui a énormément de recul par rapport à son écriture, énormément de recul. Donc, il a commencé à écrire à l'époque Trump, et il s'est mis vraiment il a creusé d'autant plus ce sillon qu'il était angoissé par l'ère de la post-vérité.
C'est ça, mais voilà. C'est absolument fascinant d'entendre ça. Enfin, moi, je découvre avec toi. Mais du coup, ce lien, justement, entre la mise en narration de la réalité et que ça se soit mis en acte justement, à l'époque Trump, oui. C'est assez fascinant et c'est questionnant.
Donc, il est très probable que David Graham soit un progressiste, on l'aura compris.
Si tu veux ajouter quelque chose avant de passer juste à un autre film, tout est dit. Donc, tout est dit ou presque. Reste pour vous à aller voir Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. C'est au navire en ce moment à Aubenas. Didier, tu voulais nous parler d'un autre film, un film serbe,
oui.
Je pense.
Qui Lost Country. Qui est proposé à Priva au Vivarais. Lost Country, le pays perdu, et le film porte bien ce nom. Donc nous sommes en 1996. En Serbie, Milosevic est au pouvoir. La Serbie a trois guerres dans les années qui précèdent derrière elle. Et le film commence au moment des nouvelles élections où le parti de Milosevic se fait vraiment balayer. Mais évidemment, vieil héritage du communisme, on n'accepte pas ça comme ça. Et on va truquer les élections pour essayer de rester au pouvoir. Alors ça, c'est le côté historique du film. Et le film est vu à travers les yeux d'un ado qui a 15 ans, dont la mère est porte-parole du mouvement de Milosevic. Et qui va être pris en tenaille entre ses propres convictions, ses camarades, qui sont tous dans la rue pour manifester, et qui ne sait plus où il est, d'autant plus qu'il a une relation avec sa mère qui est très forte, qui est très très forte, et il va rentrer dans un premier temps dans une espèce de déni en disant à ses camarades, mais non, vous vous trompez, c'est pas elle, elle n'a pas dit ça et tout, jusqu'au moment où, comme on dit, il va avoir le nez dedans, quoi, voilà. Donc c'est un film qui revient sur une histoire qu'on connaît peut-être un petit petit peu moins, bon, les guerres des Balkans, etc., tout ça, on a tout ça en mémoire, mais la révolte du peuple serbe, et en particulier des étudiants en 96, qui a duré des mois et des mois, malgré une répression absolument terrible, on la connaît un petit peu moins, donc on a ce côté-là dans le film qui est tout à fait intéressant. Ça permet de revenir un peu sur l'histoire de ce pays. Et puis on a cette histoire d'un adolescent qui est une sorte de quête initiatique qui va le conduire quand même très très loin. Quoi. Ça, ce sera au spectateur de le découvrir. Voilà, donc on peut rappeler que Milosevic ainsi que d'autres compagnons comme Madlik, etc. ont tous été condamnés pour crimes de guerre, génocide, etc. Après, ça a mis beaucoup de temps, mais il y en a beaucoup en prison, et Milosevic, lui, est mort pendant son procès.
On peut espérer la même chose pour Poutine. Ah, ce serait bien.
On peut espérer.
Eh bien, on termine là-dessus. Donc, c'est Lost Country de Vladimir... Vladimir Perichik. À voir au cinéma Le Vivarais, et puis Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. À voir à Aubenas, et bientôt sur d'autres écrans, ici en Ardèche. Merci beaucoup, Olivier et Didier, de nous avoir parlé avec amour, avec passion de cinéma, encore une fois. Merci à Sylvain d'avoir réalisé cette émission, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Cinémascope.